Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
J'essayais d'être fort pour elle. Effectivement, c'est quand même elle qui allait devoir accoucher, c'est elle qui avait supporté la douleur de la péridurale, c'est elle qui sentait plus ses jambes, c'est elle qui pouvait pas manger, qui pouvait pas boire. Je voulais qu'on vive ce moment à deux, en fait. Je voulais souffrir en même temps qu'elle, parce que c'est notre enfant.
Et finalement, en fait, ça s'est déroulé très vite, et Alban, qui avait pour Martin pu couper le cordon, en fait, donc il s'est approché et a pris l'initiative également de couper le cordon pour Marceau. Et en fait, quand il est né, donc moi je le voyais pas, mais Alban l'a tout de suite vu à couper le cordon et a dit « Mais il est beau, mais il est magnifique, petit chat, il est, si tu savais comme il est beau, j'imaginais pas ça, il faut que tu le vois tout de suite. » Et là, j'ai dit « Oui, d'accord, je veux le voir. » Et la sage-femme l'a mis dans les bras avec sa serviette. Et là, il était pur, il était beau, il sentait bon, il était tout chaud et il était tout paisible. Et pour nous, il était là, enfin, on était vraiment tous les trois et ça a été un moment extraordinaire qu'on n'oubliera vraiment jamais. Et c'est les meilleures photos qu'on garde, c'est avant qu'il l'emmène, en fait, et quand il était juste là, dans nos bras, avec sa petite main sur son genou. Et nous, on avait, c'est vrai, jamais organisé de funérailles, on savait pas comment ça se passait, donc on a dû se plonger dedans tant bien que mal, et on avait organisé, du coup, un enterrement une dizaine de jours, ça a pris un petit peu de temps... Jusqu'à ces jours-là, Alban continuait de travailler. Il n'a pris son congé paternité qu'après. Alors que moi, j'étais en arrêt, donc j'avais pris un congé de 8 semaines. Et donc, cette dizaine de jours, je l'ai vécu un petit peu seule dans mon deuil, puisque donc Martin était à la crèche, Alban travaillait. Et moi, c'était une période qui était vraiment très très difficile. J'étais très triste.
Alors effectivement, moi je me suis arrêté que 15 jours après la naissance de Marceau. Ça m'a permis quand même d'avancer un petit peu, de me remettre à fond dans le travail. Mais à côté de ça, vu que j'étais en 100% télétravail, je voyais que Capucine n'était pas bien. Je voyais qu'elle lisait beaucoup, je voyais qu'elle écrivait, je voyais qu'elle allait marcher. Je voyais qu'elle pleurait et en fait moi j'avais juste une hâte, c'était de m'arrêter pour pouvoir faire mon deuil, être avec Martin, Marceau et Capucine, et qu'on se retrouve tous les deux avec Capucine et qu'on puisse faire notre deuil ensemble, et que je puisse en fait arrêter mon cerveau, penser à Marceau, moi aussi écrire, moi aussi pleurer, aller faire du sport, jardiner. En fait, juste arrêter mon cerveau et penser à re-respirer un peu.
C'est quoi, en fait, être un couple ? Un couple, c'est être deux pour partager beaucoup, beaucoup de choses. À deux, on vit les petits moments de joie du quotidien, on en partage des fous rires, on en échange des regards qui pétillent au moment de l'annonce d'une bonne nouvelle. Mais la vie, ce n'est pas que ça. C'est aussi des phases plus compliquées, des rendez-vous manqués, des discussions qui tournent pas rond et qui se transforment parfois en engueulades monumentales. Être un couple, c'est être deux dans les moments heureux, mais aussi dans ceux qui mettent la patience et l'amour à rude épreuve. On a tant de défis à relever quand on est un couple, de crises à passer, de conflits à apaiser, et on a tant de montagnes à gravir. Pour un couple, le deuil périnatal, c'est justement l'une de ces montagnes dont on doit faire l'ascension sans même savoir si on parviendra à arriver jusqu'au sommet. Ce n'est pas le Mont Blanc, et ce n'est même pas le Kilimandjaro, c'est l'Everest qui, d'un coup, s'impose à nous. C'est la plus haute montagne qui existe, et pourtant, on ne l'avait même pas vue venir. Énorme, colossale, aussi intimidante qu'inquiétante. Est-ce qu'on va réussir à surmonter cette épreuve ? Est-ce qu'on va parvenir à la gravir, cette montagne ? Et puisqu'il n'y a pas le choix, alors on s'y met, doucement, mais sûrement. Un tel défi, au début, ça rapproche souvent. On se sent plus que jamais soudés. On trébuche ensemble, on s'arrête en même temps pour reprendre des forces, car on a le souffle court. Un parcours si violent, ça fragilise aussi. L'autre commence à faiblir, mais on n'arrive déjà plus à supporter son propre corps. Alors comment l'aider à se hisser avec nous au sommet ? Malgré tout, on lui tend la main, on porte son sac à dos, un sac qui pèse une tonne. Une tonne de larmes, de tristesse, une tonne de souvenirs douloureux, une tonne d'espoirs envolés et de projets évanouis. Au fur et à mesure de ce parcours si difficile, il arrive qu'on prenne des chemins radicalement différents. Parfois on se retrouve, et parfois non. Certains couples se séparent, l'un continuant son ascension, tandis que l'autre rebrousse chemin. Il arrive aussi que progressivement, la cadence se modifie. Qu'il s'agisse d'un deuil ou de n'importe quelle épreuve, on ne peut pas toujours caler son rythme sur celui de l'autre, quand bien même on joue la même partition. On reste deux sur la ligne de crête, mais on n'est plus forcément côte à côte. C'est dur d'accepter que l'on ait besoin de cheminer individuellement. On se sent parfois seul lorsque l'autre s'éloigne. Il y a autant de manières de vivre son deuil que d'individus. Derrière chaque personne, il y a un vécu, il y a une manière d'envisager la vie, il y a des injonctions sociales aussi. Et puis dans la question du deuil périnatal, s'ajoute cette dimension corporelle qui n'est endossée que par celle qui porte le bébé. Une dimension dont l'autre a parfois bien du mal à saisir la mesure. Vous vous prenez une tempête de grêle dans le visage, la pluie fouette vos jambes et le vent face à vous vous empêche d'avancer. Et un peu plus loin, devant vous, vous la voyez, votre moitié, qui semble marcher un peu plus vite, un peu plus aisément. Là-bas, ça semble plus facile. Mais si on regarde de plus près, il y a des cailloux dans ses chaussures et son pas, il n'est pas si assuré que ça. Tiens, là, je peux même vous dire que c'est une larme qui semble perler au coin de ses yeux. Et puis on y est. Le plus dur est derrière nous. Peut-être que l'un est arrivé tout en haut avant l'autre, mais peu importe, car finalement il y a eu cette main tendue pour réaliser les derniers mètres. On est au sommet, à deux, au plus près du ciel. On respire un peu mieux, non ? Les nuages referont ponctuellement leur apparition, mais l'horizon semble quand même plus dégagé. Il est temps maintenant de se reposer un peu, de reprendre des forces, pourquoi pas de refaire des projets ? Est-ce qu'on n'est plus que jamais soudés ? Peut-être bien. Au revoir podcast, épisode 24. Capucine et Alban, un couple face au deuil périnatal. Dans cet épisode, ce sont les voix de Capucine et d'Alban que vous allez entendre. Capucine et Alban vivent près de Lyon avec leur fils Martin, né au printemps 2019. Avant de donner naissance à Martin, Capucine, elle avait mis 2 ans avant de tomber enceinte. Mais en plein confinement, au printemps 2020, une seconde grossesse débute. Une grossesse spontanée, une grossesse surprise. Quelques mois plus tard, le couple s'installe dans la région lyonnaise et l'échographie du second trimestre est programmée. Une échographie qui va permettre à Capucine et Alban de rencontrer à nouveau ce bébé dont ils ne connaissent pas encore le sexe. Mais si c'est un garçon, il s'appellera Marceau.
Je dirais qu'on était de plus en plus sereins en fait sur le fait d'accueillir notre deuxième enfant. On découvrait en plus la région, un nouvel hôpital, une nouvelle sage-femme qui allait nous suivre et on avait vraiment hâte de voir ce petit bout de chou et aussi de découvrir le sexe puisqu'on voulait le connaître. Donc on arrive et puis tout se passe bien, on détaille vraiment, ça m'avait marqué, on avait beaucoup plus détaillé que pour Martin en fait l'échographie de fond en comble et puis donc là la sage-femme nous apprend que c'est un petit garçon et en fait on s'en doutait un petit peu parce que je l'avais non seulement senti tôt bouger, mais il bougeait déjà pas mal. Il était assez actif et du coup, comme ça avait été la même chose pour Martin, on s'était un petit peu mis en tête que c'était un garçon et du coup, super contents tous les deux. On regarde tout ce qui se passe et puis la sage-femme, vers la fin de l'échographie, nous dit mais la date, c'est pour le 24 janvier, c'est ça? Je dis oui, oui. Elle me dit c'est ça. Je dis oui, oui, c'est bien ça. Pourquoi? Et elle me dit bah je le trouve un petit peu petit. J'aurais peut-être décalé un petit peu. Et nous, lors de la première échographie, le gynécologue avait déjà en fait décalé la date par rapport à la date qui avait été trouvée lorsque j'avais fait ma prise de sang avec le taux d'hormones. Et là, la sage-femme pensait que c'était encore plus tard. Donc voilà, et on termine le rendez-vous et elle nous propose de faire une autre échographie dans 3 semaines, donc qui était à la base pas prévue, pour voir un petit peu si le bébé grandissait un peu mieux. Donc c'est vrai qu'on sort de là, tout de suite on a été un peu stressés, on en a un peu parlé autour de nous et nos amis, notre famille nous disaient oui. Moi, je connais plusieurs personnes dont le bébé était petit. En fait, il est en pleine forme, etc. Ne stresse pas. Alban était plutôt positif et moi, assez stressée quand même. Là, c'était 3 semaines un peu difficile.
Exactement. J'étais honnêtement très serein, très très heureux et impatient de le revoir, de connaître le sexe, comme le process des échographies se veut être normalement joyeux. Et en plus, on voyait qu'il bougeait beaucoup, que tout allait bien, le cœur, dans le détail, tout allait bien. Sauf ce petit doute qu'elle vient nous amener à la toute fin du rendez-vous, que je prends pas mal, parce que à l'époque, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer ce qui allait se passer. C'était vraiment loin de mon imaginaire. Donc je le prends plutôt bien et je positive comme je le fais quand même habituellement en essayant de dire on verra la prochaine écho, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas vraiment de raison, donc attendons voir.
Capucine et Alban ne reçoivent donc pas l'information de la même manière. Si le stress envahit aussitôt Capucine, Alban essaie de prendre un peu de recul. S'ouvre devant eux une période de 3 longues semaines avant la prochaine échographie qui sera réalisée cette fois-ci non plus par une sage-femme mais par un médecin. 3 semaines d'attente et de flou. 3 longues semaines à ne plus trop savoir au bout du compte ce qu'on va leur annoncer. L'incertitude commence à prendre de plus en plus de place dans leur esprit. Lorsque la date arrive, la gynécologue réalise l'examen, elle prend toutes les mesures. Et effectivement, les courbes ne sont pas bonnes. Mais elle ne peut pas se prononcer davantage. Cette fois-ci, le couple doit se rendre dans le centre de diagnostic anténatal d'une grande maternité de la région lyonnaise. Le rendez-vous aura lieu une semaine plus tard. Il faut à nouveau attendre.
Nous, on arrive à l'hôpital, en plus donc un très gros hôpital qu'on ne connaît pas du tout, assez tôt en plus le matin. Et bon, là, c'est vrai qu'on attend un petit peu et on était tous les deux vraiment... pas bien, vraiment, vraiment stressée. Là, l'écho se passe. Il y avait une interne et un gynécologue. L'écho dure très longtemps. Elle bouge beaucoup, beaucoup le bébé en fait. Et je me dis, mais le pauvre, il doit avoir mal, il doit souffrir. Et ça dure, ça dure, ça dure. Et puis il nous dit pas grand chose. Donc on pose des questions, mais il nous dit non, ça va, c'est normal, c'est correct, etc. Et puis, à la fin de l'échographie, il fait venir le professeur pour lui montrer l'échographie et avoir un petit peu son avis. Et là, le professeur nous dit qu'effectivement, tout est correct, mais il s'inquiète du fait que le bébé soit quand même plus petit que la moyenne et, selon lui, trop petit, alors que Martin, notre premier enfant, il était très bien sur les courbes. Il nous dit, est-ce que vous voulez faire une amniosynthèse pour détailler un petit peu plus et voir si tout va bien au niveau des chromosomes. Donc nous, là, on le regarde et puis on n'y connaît rien. Donc on lui demande, est-ce que vous nous conseillez de la faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et là, il nous renvoie la balle en nous disant, c'est vous qui décidez, je ne fais pas le choix pour vous, vous pouvez la faire si vous voulez, voilà, maintenant, à vous de voir. Et puis nous, comme on était là, on s'est dit, autant aller jusqu'au bout, allez, on l'a fait. Et c'est vrai qu'au départ, enfin, la première gynéco nous en avait parlé, que c'était une possibilité, mais on s'était pas plus renseigné que ça et on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc là, ils nous prennent en charge, on attend un petit peu et puis finalement, donc ils me font la myosynthèse qui a été quand même pour moi assez intrusive en fait. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, donc ça fait quand même un peu mal et puis ça a été aussi un petit choc psychologique. Et voilà, et puis finalement donc elle me dit qu'il faut pendant 3-4 jours que je reste tranquille, ne pas trop porter et être active avec avec notre premier, avec Martin, et puis que dans une semaine on aurait les premiers résultats et 10 jours 15 jours plus tard la totalité des résultats de la myosynthèse. Donc là c'est une semaine vraiment assez assez longue, faut le dire, et assez stressante. Et donc une semaine après, le vendredi, ils nous ont toujours pas appelé, donc nous on les appelle et puis la sage-femme me dit ah bah je viens juste tout juste de recevoir vos résultats pour les trisomies 13, 18 et 21, tout va bien, rien à signaler, tout est parfait, voilà. Donc là on raccroche et puis on est fou de joie, donc on prévient tout le monde, on est super content parce que c'est vrai qu'on avait un peu averti nos proches. Vraiment, on revit. En fait, ma grossesse était depuis le début très fatigante, et là, j'ai l'impression d'avoir un regain d'énergie, de positiver surtout. Enfin, vraiment, tous les deux vraiment hyper contents.
Capucine vient donc de recevoir les premiers résultats de la myosynthèse. Ces résultats sont rassurants, certes. Alban et elle ont même l'impression que le plus dur est derrière eux, et ils respirent à nouveau en attendant la suite des analyses. Car les résultats arrivent toujours en deux temps lorsqu'une amyosynthèse, c'est-à-dire un prélèvement du liquide amniotique, est réalisée. Comme l'explique le site internet de l'assurance maladie amélie.fr, les premiers résultats, qui concernent les trisomies 21, 18 et 13, sont disponibles très rapidement, en général au bout de 3 jours par exemple. Toutefois, l'analyse complète du karyotype, qui est en fait la représentation photographique des chromosomes du fœtus, peut prendre 2 à 3 semaines. Car elle demande la mise en culture de cellules afin que ces dernières se multiplient. L'attente, encore et toujours, pour Capucine et Alban qui espèrent que leurs inquiétudes disparaîtront définitivement avec les prochains résultats. Mais la deuxième salve de résultats, justement, n'est pas bonne du tout. Le karyotype du bébé est anormal. Capucine l'a appris une semaine après le premier appel. Cette fois-ci, c'est le professeur qu'elle a rencontré lors de la dernière échographie qui lui a téléphoné directement. Nous sommes un vendredi, Capucine est au travail lorsque son téléphone sonne. Elle comprend que c'est grave, mais le médecin ne peut rien lui dire de plus, si ce n'est qu'Alban et elle ont d'ores et déjà rendez-vous avec une généticienne 3 jours plus tard, le lundi. Dans la tête de Capucine, c'est la tempête, c'est le chaos. Alban, de son côté, a besoin d'entendre lui-même les mots du médecin.
Je suis pas bien du tout. En fait, mon monde s'effondre, quelque chose que j'avais vraiment jamais imaginé, parce qu'on a toujours des petits stress, des petits doutes, et je suis de nature stressée. Mais quand on avait eu le premier résultat du karyotype, que tout était normal, on avait vraiment écarté toute possibilité de problème, et là. Je sais pas, il y a d'un coup comme l'orage qui est là, et je sors dehors, j'appelle Alban qui répond pas, j'appelle ma sœur qui répond, et là je lui dis, et je fonds en larmes, et elle aussi, toutes les deux on était vraiment pas bien, et je remonte et je lui dis à mon responsable que je dois partir, et il comprend tout de suite, il me dit rentre chez toi, on se tient au courant. Je lui dis que voilà, je pourrais pas travailler cet après-midi et que lundi j'ai rendez-vous le matin. Là, je rentre, je me rappelle, en plus, il pleuvait, je pleurais, je voyais rien. Et là, Alban voit mon état et au départ, a un petit peu du mal à comprendre et me questionne beaucoup. Et je lui dis, mais rappelle le professeur, si tu me crois pas, appelle et entends-le. Et je pense qu'il avait besoin de l'entendre lui-même.
Ouais, exactement. Elle avait essayé de m'appeler une première fois et je pouvais pas répondre. Je crois que j'étais en rendez-vous téléphonique. Et j'ai vu son message, parce qu'elle m'a envoyé un SMS en me mettant « rappel, c'est grave ». Donc là, j'envisage tout, et absolument pas du tout quelque chose comme ça, bien sûr. Donc là, je crois que j'étais au téléphone quand même, t'étais en voiture, donc j'essaie juste de lui dire de se calmer, de rentrer à la maison tranquillement en faisant attention à elle, et qu'on avisera quand elle sera de retour. Et effectivement, je lui demande qu'on rappelle le professeur. Étant de nature un peu contrôlante, j'ai besoin de savoir, d'entendre moi-même et de comprendre. Donc là, au bout de deux appels, je crois, de deux tentatives ou trois, et effectivement, il reste assez vague dans ses dits, répète exactement la même chose qu'il avait répété plus auparavant avec Capucine, comme quoi c'était grave, que ça touchait effectivement une partie d'un chromosome, qui pouvait pas réellement rentrer dans les détails avec nous par téléphone et que l'hôpital lundi le ferait bien plus précisément. Donc là, je comprends, comme Capucine le matin, au ton de sa voix, que notre monde s'écroule, parce qu'à partir de ce moment-là, même si on n'a pas encore eu tous les détails, moi j'ai plus d'espoir. C'est ça qui est dur dans le cheminement, c'est que on n'a pas il nous laisse pas envisager de doute, il nous laisse pas envisager un espoir, il nous laisse pas envisager une guérison, parce que on sait que tout ce qui se passe au niveau des gènes, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Donc à part faire un pari très très risqué sur la suite de la grossesse, on connaissait à partir de ce coup de téléphone la suite malheureuse et le choix qu'on allait devoir faire. Donc on a eu un week-end très long pour essayer de digérer cet appel, et au final on n'a jamais pu le digérer en attendant la suite des événements.
Plus de 48 heures, c'est ce qui sépare le couple de ce rendez-vous pendant lequel le diagnostic médical va être affiné. Plus de 48 longues heures à affronter, alors qu'ils savent au fond d'eux qu'il n'y a même plus d'espoir. Capucine et Alban ont aussitôt ressenti le besoin d'être dans leur bulle. Des amis devaient venir les voir, ils annulent. Ils s'occupent de Martin, leur fils alors âgé d'un peu plus d'un an. Ils occupent le temps comme ils peuvent, en fait, en attendant cette échéance à laquelle ils ne peuvent se résoudre. Quand tout va bien, les heures et les jours filent, parfois à toute allure. Mais quand rien ne va plus, les minutes semblent être des heures, et les heures, des jours. Des jours pendant lesquels on retient son souffle, on est en apnée. La vie est impossible quand on est en apnée. Et pourtant c'est ça. Pendant ce samedi et ce dimanche, Capucine et Alban ne vivent pas vraiment. Ils tentent de survivre. Finalement, le lundi matin arrive. C'est une généticienne et une psychologue qui les reçoivent. Comme vous allez pouvoir l'entendre dans l'extrait qui va suivre, Alban les décrit comme des robots. Choqué de ce qu'il était en train de vivre, il a été interpellé par la froideur de ses deux interlocutrices au moment où son couple vivait la pire épreuve qui soit.
Donc on y va, comme tu peux l'imaginer, sans grand espoir et toujours dans cette apnée-là, qu'on trouve le service et effectivement, on a en face de nous deux robots qui font bien sûrement leur boulot, mais absolument pas dans l'affect, très factuel, qui nous montre le chromosome en question, qui nous montre les altérations du chromosome. J'oublie de te dire que deux robots, parce qu'il y avait la généticienne et aussi une psychologue, donc ça laisse tout de suite envisager le poids du rendez-vous. Et donc la généticienne voilà, nous présente l'altération du chromosome, en laissant un petit peu en suspens ce qui va advenir. En fait, on aurait aimé pour ce premier rendez-vous avoir beaucoup plus de répondants, parce qu'on était tous les deux effondrés, parce que ça confirmait juste ce qu'on venait d'entendre vendredi deux jours avant. Enfin, moi, c'était un espoir perdu, mais tu te dis tout le temps, ils se sont peut-être trompés de dossier, ils vont nous annoncer qu'ils s'excusent et que c'est une malencontreuse erreur, et malheureusement pas du tout.
Ouais, donc elle nous explique ce qui se passe, et puis elle termine en disant donc et je sais plus exactement par quoi ce qu'on a dit. On a dit donc on va arrêter la grossesse, et On a ressenti tous les deux à ce moment-là, et on s'en est parlé après, que en fait j'ai du mal à me rappeler exactement ce qu'elle a dit, mais c'était vraiment elle ne nous avait pas laissé le choix, enfin de par ce qu'elle avait dit avant en étant aussi très pessimiste, et puis Donc, c'était comme si elle-même avait fini la phrase, mais bon, comme elle n'a pas le droit, elle nous a laissé la finir. Et c'était fini, en fait. Donc, là, Alban, je me rappelle, comme tu le dis, tu essayais de trouver un peu des explications en lui demandant, mais est-ce que ça peut être dû à, au CMV, à quelque chose qu'on aurait fait en début de grossesse? Il essayait de trouver la cause, en fait, et, donc elle nous a dit que non, qu'ils étaient incapables de justifier cette altération des chromosomes. Et puis ensuite, elle nous a dit que voilà, une sage-femme allait nous recevoir pour nous expliquer comment on allait être suivi, tout ce qui allait se passer. Et puis voilà, le rendez-vous était fini. La psychologue en fait était là juste pour nous écouter, sauf qu'à ce moment-là, nous on ne pouvait pas parler du tout. Donc voilà, ça s'est arrêté là et on est allé dans le service du diagnostic anténatal rencontrer la sage-femme qui nous attendait. Et là, par contre, c'était un rendez-vous vraiment super. La sage-femme, on a franchement été hyper empathique. Elle nous a soutenues. Elle nous a expliqué qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là, qu'il fallait qu'on soit fort. Elle nous a expliqué toutes les étapes, en nous demandant à chaque fois si on avait des questions. Elle nous a dit, vous avez le droit de craquer, allez-y. Vous savez, malheureusement, ici, des interruptions médicales de grossesse, on en fait tous les jours, vous n'êtes pas seule. C'est très, très dur, mais vous allez y arriver, vous allez vous en sortir, et il restera auprès de vous toute votre vie. Et elle nous a vraiment tout expliqué en détail. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment ce dont on avait besoin, et on a ressenti un apaisement, en fait, et un soutien vraiment dont on avait besoin, alors qu'on n'arrivait pas à réfléchir, qu'on était comme un peu nous aussi des robots finalement, parce que on subissait tout ce qu'on nous disait, on n'arrivait pas à voir la réalité, et tout ce qu'elle nous a dit ce jour-là nous a vraiment vraiment aidé.
En fait, c'était une vraie coach. C'était une vraie coach. Moi, j'avais la sensation qu'on me tapait dans le ventre, que j'encaissais les coups déjà depuis quelques jours. Et là, j'avais la sensation que c'était un peu moins fort, que quelqu'un enfin était là pour nous porter. Et surtout, à ce moment-là, on était juste incapable de poser des questions parce qu'on savait pas quelles questions poser, parce que c'est de l'inconnu. Et du coup, cette sage-femme-là, Clémence, d'ailleurs, si elle nous entend, elle nous a coachés, elle nous a donné tous les détails de comment ça allait se passer dans le moindre détail. C'était affreux à entendre, on était en pleurs pendant tout le rendez-vous, mais on n'avait pas de questions à poser. C'était concret. Enfin, ça amenait un tout petit peu de concret dans ce parcours horrible, qui était irréel. Elle nous a amené du concret, elle nous a amené des réponses. Effectivement, elle nous a rassurés, disant qu'il y avait une IMG par jour dans cet hôpital, qu'on n'était pas les seuls, qu'on y était pour rien, que on allait apprécier la vie bien plus qu'on l'appréciait aujourd'hui. Et effectivement, ça peut paraître un peu intrusif, mais elle avait raison, que ça allait encore plus renforcer notre couple, qu'on allait être encore plus fort. Donc là, moi, je pense, je lui dis pas, mais quoi que je lui dis peut-être, je lui dis ok, mais on est déjà assez fort, je trouve, on en a peut-être marre d'être fort. Je préférerais peut-être être plus faible et pas avoir à vivre ça. Mais vraiment un coach.
La question de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse, est alors officiellement soulevée. Capucine et Alban avaient rapidement évoqué cette possibilité durant le week-end précédent. Pour certains couples, la question même de l'IMG fait débat, mais pas pour Capucine et Alban. Tous deux sont d'accord, il n'y a pas de discussion possible. Leur bébé ne doit pas souffrir. En revanche, ils doivent se poser certaines questions qu'ils n'avaient pas pu anticiper jusqu'alors. Voudront-ils le voir, le bébé, après l'accouchement? Voudront-ils l'habiller? Voudront-ils lui donner son prénom, Marceau?
Alors oui, on en avait un petit peu parlé le week-end, en sachant quand même qu'on avait intégré le fait que ça allait se passer, parce qu'au final, ça pouvait être la seule issue. Après, je peux pas te dire effectivement, enfin qu'on en a vraiment parlé longuement, en se disant, et si on le fait pas? Qu'est-ce qui va se passer? On s'est posé la question récemment en disant, et tiens, et si on l'avait pas fait, est-ce que Marceau, il serait là? Est-ce que Marceau, il serait là, mais malade, en train de souffrir? Est-ce qu'il serait pas là et que on aurait dû accoucher dans des situations plus difficiles? En fait, le choc était tellement tel que c'était une évidence pour nous et que, bien sûr, qu'on s'est posé la question, on n'a pas débattu. On savait que c'était la meilleure chose à faire pour lui, avant tout, parce que c'est la décision la plus difficile à prendre, je pense, pour des parents.
En fait, on a vraiment, nous, réfléchi plus par rapport à Marceau. On voulait pas qu'il souffre. Et vu ce qu'on nous annonçait, on savait que l'issue, elle serait pas bonne, que ce soit dans mon ventre, que la grossesse s'arrête avant la fin ou après, qu'il ait quelques jours, semaines, mois, on n'en sait rien, mais de ce que vraiment nous ont dit les médecins, ça allait pas bien se passer et on n'a même pas réfléchi par rapport à ce que dit la religion. Enfin, après nous, c'est plutôt on prend ce qu'il y a à prendre dans la religion et ça nous a pas du tout freiné par rapport à ça. Comme on a eu le rendez-vous pour l'IMG une semaine plus tard, je pense aussi que c'est cette semaine qui nous a fait nous poser les questions, des bonnes questions. Et au départ, je voulais pas forcément le voir. Après, je m'étais dit que je voulais le voir une fois que les sages-femmes l'auraient emmailloté et ramené. Et finalement, je l'ai vu tout de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et finalement, heureusement qu'il y a eu cette semaine pour vraiment de prise de conscience de ce qui allait se passer et pas regretter non plus derrière.
Dans l'extrait que vous venez d'écouter, Capucine évoque la religion, car effectivement, la religion fait partie de leur vie, à Alban et à elle. La question n'est pas de savoir si l'interruption médicale de grossesse va à l'encontre ou non des croyances religieuses. En revanche, ce sont leurs croyances qui les ont aidés à s'approprier un rituel pour pleinement intégrer leur bébé à leur famille et lui souhaiter la bienvenue avant de lui dire au revoir. Capucine et Alban ont décidé, la veille de l'IMG, de créer leur propre sacrement. Un baptême un peu particulier, pour faire une place à Marceau dans leur communauté, dans leur famille, et aborder la journée du lendemain avec un peu plus de douceur et de sérénité.
Déjà, on a souhaité continuer à travailler jusqu'au lundi soir pour s'occuper l'esprit, en fait, et y penser le moins possible de manière négative. Et le lundi soir, j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec une psychologue que j'avais déjà vue à 21h en visioconférence et j'appréhendais beaucoup en fait. Je me disais, accoucher c'est quand même une grosse épreuve physique et mentale et je ne me sentais pas capable d'accoucher dans le sens où j'aurais pour moi ni le physique ni le mental. Et pour moi, c'est très important. Donc, j'arrêtais pas, je me rappelle de dire à ma sœur, mais j'y arriverai pas et ça me faisait énormément peur. Et donc le lundi soir, on a rendez-vous avec la psychologue tous les deux et on a énormément parlé pendant une heure. Elle nous a vraiment briefé. Encore une fois, elle nous a dit que c'était pas de notre faute, qu'on faisait tout pour lui, que de toute façon, il existerait toujours. Et elle nous a dit, mais baptisez-le. On dit, bah, comment ça, baptisons-le, on sait pas, on peut pas. Si, vous faites un rituel tous les deux. Si vous avez envie, vous le baptisez ce soir. Tant qu'il est encore vivant dans votre ventre, baptisez-le. Et voilà, du coup, on a fait ça à minuit, tous les deux, comme on pouvait, parce qu'on savait pas comment s'y prendre. Et puis, mais ça a été un moment très, très fort dont on se souviendra toujours. Et voilà, on a dormi très peu parce qu'on avait rendez-vous à 7h le lendemain, on avait une heure d'eau, enfin bref, on s'est levé très tôt. Mais je dirais qu'on est arrivé à l'hôpital et on était à la fois dans une bulle où personne ne pouvait entrer et on était serein tous les trois, Alban, Marceau à l'intérieur de moi et moi. Et après, voilà, on s'est laissé guider toute la journée, mais on était dans un état d'esprit serein, que voilà, ça allait se passer, il le fallait, mais que on allait rester tous les trois hyper soudés toute la journée malgré ce qu'il allait se passer et que ça allait aller.
Exactement. Donc on a fait ça tard le soir, vers minuit, quand presque tout le monde était couché. On a éteint les lumières, on s'est mis dans notre chambre, j'ai pris deux bougies, on a pris une croix, un petit ange, et on s'est mis tous les deux à lire des textes qu'on trouvait sur internet, des chansons, et on a prié et on lui a parlé en lisant les phrases d'un baptême, et on a beaucoup pleuré aussi. Mais ça nous a soulagé ce moment. Vraiment, ça nous a vraiment soulagé parce que on lui accordait de l'importance, on le faisait vivre pour tout le temps avec nous, proche de Jésus, de Marie, de Dieu.
Il y a des mots, des expressions qui sont abstraites. Et il y a les réalités qui se cachent derrière ces mots. L'IMG, l'interruption médicale de grossesse, c'est un terme abstrait pour quiconque n'a pas été confronté au deuil périnatal. La grossesse va être interrompue, certes, mais concrètement, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que le cœur du bébé va cesser de battre alors qu'il est encore dans le ventre maternel. Concrètement, ça signifie aussi que l'accouchement va être déclenché, que ce sera un accouchement par voix basse, dans une salle de naissance. Capucine avait déjà vécu une grossesse, un accouchement, à l'occasion de la naissance de son fils aîné, Martin. Mais ce second accouchement, il est inédit, elle ne sait pas à quoi s'attendre, et il en est de même pour Alban. L'accouchement, justement. Il y a ce qu'on imagine, et il y a ce qui nous attend. Pour les couples, un accouchement, peu importe le contexte, c'est toujours une épreuve qui induit un certain déséquilibre, puisque il y a la mère qui doit faire face à une épreuve physique intense, et il y a le coparent qui a parfois du mal à trouver sa place, à devenir acteur ou actrice de ce moment, et pas seulement spectateur ou spectatrice. L'accouchement, à l'occasion d'une IMG ou d'une mort fœtale in utero, est souvent un moment encore plus délicat pour les couples. La souffrance physique, émotionnelle, elle est intense pour la mère. Et puis cette souffrance émotionnelle, elle existe aussi pour le coparent. Et plus qu'à n'importe quelle autre occasion, il ou elle se sent bien souvent extérieur et impuissant ou impuissante. Malgré tout, la rencontre avec ce bébé peut être un moment doux, un moment qui réunit les couples, un moment pendant lequel chacun et chacune trouve sa place, spontanément et naturellement, grâce notamment à l'intervention d'une tierce personne, la sage-femme.
Je savais pas trop comment gérer, je sentais plus du tout mes jambes et voilà, c'était assez difficile et je me disais encore plus que je n'aurais pas la force d'accoucher.
Les heures étaient, je pense, aussi longues que celles de Capucine. J'essayais d'être fort pour elle, parce que effectivement, c'est quand même elle qui allait devoir accoucher, c'est elle qui avait supporté la douleur de la péridurale, c'est elle qui sentait plus ses jambes, c'est elle qui pouvait pas manger, qui pouvait pas boire. Même si j'avais pas grand appétit, j'essayais d'être fort, d'être à son chevet, de la faire rire, de des moments lui changer les idées, de lui tenir la main tout le temps, de l'aider aussi un peu à respirer. Je voulais qu'on vive ce moment à deux, en fait. Je voulais souffrir en même temps qu'elle, parce que c'est notre enfant. La douleur est telle, physique et mentale, que j'espérais au plus profond de moi qu'il n'y avait pas à avoir de complications, qu'on n'allait pas nous rajouter des complications, des douleurs de dernière minute. En fait, on envisage du coup encore des pires choses qui nous arrivent. Et au final, c'est plutôt bien passé, malgré le fait que ce soit long. Et pour ça, j'étais assez satisfait, mais j'ai vraiment essayé de l'accompagner au mieux que je pouvais.
Et puis, on a été accompagné en fait par une deuxième sage-femme extraordinaire, très, pour le coup, très discrète, mais d'une gentillesse, d'une bienveillance. Et voilà, on voyait qu'elle était vraiment, vraiment touchée. À la fin, elle a pleuré avec nous d'émotion. Mais elle était vraiment à l'écoute. Et quand elle a su que c'était le moment, parce qu'elle avait aussi d'autres patientes à gérer, quand elle a été 100% libre pour nous et qu'elle sentait que moi, je n'en pouvais plus et qu'on était prêts aussi, nous a dit « Allez, c'est le moment ». Donc, elle a pris ce côté coach aussi dont on avait besoin. « Allez, c'est maintenant, ça y est ». Et finalement, en fait, ça s'est déroulé très vite. Et Alban, qui avait, pour Martin, pu couper le cordon, en fait, donc il s'est approché et a pris l'initiative également de couper le cordon pour Marceau. Et quand il est né, donc normalement, les sages-femmes devaient emmener Marceau, le langer et me le ramener, nous le ramener. Et en fait, quand il est né, donc moi, je le voyais pas, mais Alban l'a tout de suite vu, a coupé le cordon et a dit « Mais il est beau, mais il est magnifique, petit chat. Si tu savais comme il est beau, je n'imaginais pas ça. Il faut que tu le vois tout de suite. » Et là, j'ai dit « Oui, d'accord, je veux le voir. » Et la sage-femme l'a mis dans les bras avec sa serviette. Et là, il était pur, il était beau, il sentait bon, il était tout chaud et il était tout paisible. Et pour nous, il était là, enfin, on était vraiment tous les trois et ça a été un moment extraordinaire qu'on n'oubliera vraiment jamais. Et c'est les meilleures photos qu'on garde, c'est avant qu'il l'emmène, en fait, et quand il était juste là, dans nos bras, avec sa petite main sur son genou, et tout mignon, et ça a été un moment très fort, et à la fois de pur bonheur de, on accueille notre enfant, et à la fois un énorme déchirement de, finalement, il est déjà plus là, et on doit le quitter, et je pense que ça restera gravé dans nos mémoires à jamais, en tout cas, ce moment pouvait pas être plus beau pour nous. Et là, on a pris du temps avec lui. On lui a parlé. On l'a embrassé comme on pouvait. Et à partir du moment où après, elles l'ont emmené, habillé et nous l'ont ramené, c'était déjà plus pareil. Et on a encore voulu passer beaucoup, le plus de temps possible avec lui. Mais vraiment, le moment qu'on garde, c'est dès qu'il est né, qu'on l'a tout de suite pris, et c'est là qu'on se dit, on a vraiment, heureusement qu'on a changé d'avis, qu'on a voulu le voir tout de suite, parce que c'est ce moment qui restera gravé, et on en garde un merveilleux souvenir.
Quand on t'annonce le fait que tu vas devoir faire une interruption médicale de grossesse, tu as une peine et un choc qui est tel que, en fait, tu dis, je veux pas plus, je veux pas qu'on m'impose que à ma femme d'accoucher, en plus par voix basse, je veux pas qu'on faites-lui une anesthésie générale, une césarienne et puis voilà, mais en fait, mon Dieu merci qu'on nous ait forcé et de toute façon pas laissé le choix de d'accoucher effectivement par voix basse pour vivre ce moment de pur bonheur à la fin qui concrétise un peu tout notre projet d'avoir un enfant et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces souvenirs de chaleur, d'odeur, ces photos qui nous permettent d'avancer au jour le jour.
Voilà, ça va jusqu'au bout, en fait. On n'a pas le choix de l'issue, mais du coup, autant qu'elle soit la plus belle possible. Et le jour J, donc c'était assez long, mais je me disais, avant que ça arrive, le moment de l'accouchement, je me disais, mais j'étais un peu dans l'euphorie de j'ai hâte de le rencontrer, j'ai vraiment hâte là, je veux le voir, je veux sentir et porter mon bébé, j'ai vraiment hâte, et ça s'est concrétisé comme ça, et du coup c'était un moment de bonheur. Le moment de bonheur, c'est que tu rencontres ton bébé que tu as déjà attendu. Moi, ça faisait six mois et demi, et tu le rencontres, et il est, en fait, au départ, je savais pas à quoi m'attendre. En plus, il était beau comme un nouveau-né, sauf qu'il était en petit format, finalement. Et il était beau, c'était tout de suite, c'était le quatrième membre de notre famille. Et ça s'est imposé, avec un vrai bonheur à nous. Et il est là, dans tes bras, comme un bébé qui dort. Et en fait, il est déjà plus là, et tu dois le redonner aux sages-femmes pour qu'elles l'emmènent. J'ai eu ce sentiment de l'abandonner, et ça a été vraiment très dur. Et à chaque fois, du coup, on avait du mal à le quitter. On leur donnait, on leur disait, on peut le revoir une dernière fois. On le revoyait, et après, on devait le requitter. Et on est retourné le voir une dernière fois le lendemain. Et là, on s'était bien mis en tête que ça allait être la dernière fois. Et c'était hyper dur, parce qu'on n'avait qu'une envie, c'était de qu'il reste avec nous, en fait. On voulait vraiment, on voulait plus le quitter. Alors que, voilà, il fallait le laisser partir. Et de toute façon, il était plus là physiquement, mais... C'est ça qui était vraiment dur.
Capucine et Alban ont dit au revoir à Marceau. Si le deuil a d'une certaine manière commencé avant même l'accouchement et au moment de l'annonce du diagnostic de la maladie incurable de leur fils, l'après qui se profile à l'horizon n'aura rien de simple. Bien au contraire. Alors que tout n'est que vide et chaos, il va falloir se reconstruire. Alban et Capucine ont vécu le même drame, mais ils vont se reconstruire ensemble et séparément. Ils vont emprunter le même chemin, puis des chemins séparés, et ces chemins vont se recroiser ou évoluer en parallèle l'un de l'autre. Les rythmes, les émotions, les comportements aussi vont être différents. Rentrés chez eux, une nouvelle étape les attend. Ce sont les funérailles de Marceau, célébrées dans la plus stricte intimité, une dizaine de jours après le décès. Alban reprend le travail après l'accouchement, tandis que Capucine est en congé maternité.
Cette dizaine de jours... Je l'ai vécu un petit peu seule dans mon deuil, puisque donc Martin était à la crèche, Alban travaillait. Et moi, c'était une période qui était vraiment très très difficile. J'étais très triste. J'avais besoin d'écrire. J'ai écrit tout ce qui s'est passé. J'avais besoin d'écouter des podcasts. J'avais besoin de lire, d'être seule, d'aller marcher, vraiment d'être seule avec moi-même. Et c'était difficile. de savoir qu'Alban, on n'était pas totalement présent avec moi à ce moment-là, à part les soirs et les week-ends, puisqu'il travaillait.
Alors effectivement, moi, je me suis arrêtée que 15 jours après la naissance de Marceau. Pour la simple et bonne raison que j'avais un gros rendez-vous, un gros meeting que je devais préparer jusqu'au bout. Effectivement, j'aurais pu m'arrêter juste après, mais j'avais quand même ce rendez-vous à préparer. Ça m'a permis quand même d'avancer un petit peu, de me remettre à fond dans le travail, de presque dans la normalité. Mais à côté de ça, vu que j'étais en 100% télétravail, je voyais que Capucine n'était pas bien. Je voyais qu'elle lisait beaucoup, je voyais qu'elle écrivait, je voyais qu'elle allait marcher, je voyais qu'elle pleurait. Et en fait, moi, j'avais juste une hâte, c'était de m'arrêter pour pouvoir faire mon deuil, pour pouvoir m'arrêter. Être avec Martin, Marceau et Capucine, et qu'on se retrouve tous les deux avec Capucine, et qu'on puisse faire notre deuil ensemble, et que je puisse en fait arrêter mon cerveau, que je puisse me faire mon deuil, penser à Marceau, moi aussi écrire, moi aussi aller marcher, moi aussi pleurer, aller faire du sport, jardiner, en fait juste arrêter mon cerveau et penser à re-respirer un peu.
Le deuil périnatal, c'est un tsunami. Pour soi, pour sa famille, pour son couple. Parfois, on ne se reconnaît même pas soi-même. Alors c'est encore plus dur de parvenir à reconnaître l'autre. Comme le dit Marie-Josée Soubieux, pédopsychiatre et psychanalyste, dans son ouvrage de référence sur le deuil périnatal, Le berceau vide, toute la dynamique conjugale est bouleversée par la mort d'un bébé. Ce projet d'enfant avait soudé le couple, poursuit-elle, et lui permettait de se projeter ensemble dans l'avenir. Marie-Josée Soubieux, qui s'appuie sur les témoignages des nombreux parents qu'elle a rencontrés, constate, je cite, qu'au moment de l'événement, les conjoints sont souvent solidaires et s'appuient l'un sur l'autre. Cependant, au fil du temps, les rapports peuvent se distendre et la communication devenir difficile. Certains couples se sépareront donc à l'issue de cet événement qui a parfois réactivé des failles très profondément enfouies. Le deuil périnatal se poursuit alors sur fond de fin d'histoire d'amour. Cela dit, la mort de l'enfant à naître ne signifie pas nécessairement et automatiquement la mort du couple. Pour autant, cela reste une épreuve très importante qui peut entraîner des dégâts durables. Alban et Capucine, comme beaucoup de couples, ont donc traversé des crises.
Donc les quelques semaines, mois qui ont suivi la perte de Marceau, on le vit, je trouve, comme des vagues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va, la vie reprend son cours. En plus, on a Martin qui nous aide énormément à garder le sourire, etc. Et puis, il y a des phases où ça va pas, on a un énorme coup de tristesse. Et déjà, ces moments-là, on les a pas forcément en même temps, d'ailleurs pas du tout. Il y a des soirs où je me mettais d'un coup comme ça à pleurer. Parfois, c'était Alban et du coup, on essayait de se soutenir comme on pouvait dans ces moments-là. Et puis, je dirais, à partir de 2-3 mois après, la vie reprend. Moi, je reprends aussi peu à peu le travail. Et il y a eu des petits moments de crise où on se comprenait pas sur certaines choses, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et j'ai eu rendez-vous avec ma psy et je lui explique que voilà, on a eu une grosse crise, on avait 3h30 de route et ce jour-là, on avait beaucoup parlé, on s'était dit qu'on se comprenait pas. En fait, Alban avait beaucoup besoin d'être dans l'action, sans arrêt de faire des choses, d'avoir plein de projets aussi, d'acheter, etc. Et moi, en fait, dès qu'il me proposait quelque chose, je lui disais non. Je faisais un blocage et du coup ça finissait toujours plus ou moins en crise et ça nous l'a fait plusieurs fois, dont deux fois un peu où moi je me posais de réelles questions en me disant mais je comprends pas, on va vraiment pas sur le même chemin, ça nous arrivait pas avant, je sais pas ce qui se passe. Et quand j'en ai parlé à ma psy, Elle m'a dit « Ah, mais c'est totalement normal. En fait, vous vivez votre deuil de manière très différente et c'est très souvent le cas que les hommes ont besoin justement, comme des guerriers en fait, d'être dans l'action, de voilà, de surpasser en fait ce qui se passe en étant tout le temps en train de faire des choses, alors que la femme a plus besoin de se replier, de faire plus des activités de voilà justement de d'être tranquille, de lire, de beaucoup plus dans la réflexion. Elle me dit c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut que vous acceptiez l'un et l'autre, que vous vivez la chose différemment. Il faut que vous vous écoutiez et que vous essayiez chacun de votre côté de voilà d'accepter le comportement de l'autre. Et de toute façon, nous on en avait de toute manière beaucoup parlé et on en a après ce rendez-vous-là aussi de nouveau parlé. Et finalement, ça nous a pas mal aidé. Chacun a mis un petit peu de l'eau dans son vin et c'est revenu peu à peu chacun enfin une vie plus normale plus comme avant où on est beaucoup plus en équilibre sur certaines choses on n'en avait pas eu conscience sur le coup et quand ça nous a fait tilt et oui c'est vrai que on était en fait venu dans les extrêmes de ce qu'on pouvait être alors que c'était pas le cas avant voilà.
Je touche du bois, on a peu de crises dans notre couple quand même jusqu'à présent. Et là, elles se multipliaient vraiment depuis l'IMG. Je voyais qu'on n'avançait pas au même rythme que moi. J'avais peut-être accéléré parce que effectivement, en plus, on vient d'acheter une maison, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Et au fond, ça me faisait du bien de refaire des projets, d'être dans le faire. De pouvoir faire une to-do list, de pouvoir checker des choses que j'ai faites pour être satisfait à la fin de ma journée. Et c'était très frustrant de proposer des choses à mon épouse et avoir un rejet systématique. Au départ, une petite réflexion, puis à la fin, même plus de réflexion, peu importe ce que je proposais, c'était non. Donc, c'était en fait des freins énormes à chaque projet que je proposais. Et c'était assez frustrant, ouais. Assez frustrant, et du coup... on a beaucoup essayé d'en parler, on en a vraiment beaucoup parlé pour comprendre ce qui nous arrivait et ça nous fait du bien d'ailleurs à chaque fois de communiquer autant avant d'avoir ce décodeur qui nous a un peu aidé, qui a fait un peu pas électrochoc mais qui a ouvert un peu nos yeux sur le fait qu'il fallait qu'on fasse un pas vers l'autre dans notre manière de faire pour comprendre mieux l'autre
et accepter on en avait parlé aussi à une association. Accepter en fait cet état qui un petit peu de vulnérabilité et on n'est pas 100% nous pendant un laps de temps qu'on connaît pas en fait.
Je suis moins dans l'action, Capucine est moins que dans l'être. On a repris notre rythme d'avant, on communique toujours autant. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, on a plus de crise. La tempête est passée On s'est remis en équilibre tous les deux. On s'est remis en équilibre.
Oui, je pense que maintenant on est déjà effectivement on parle et c'est je pense primordial et on a besoin de vivre des moments avec Marceau pour Marceau ensemble et besoin de se prendre des moments où on va au cimetière tous les deux, où on en parle, on a vraiment besoin d'en parler ensemble, de se rappeler les souvenirs et voilà, on a envie aussi de lui rendre des hommages et notamment ce podcast et on a cet amour qui grandit pour lui, en fait, on en parle très souvent et on en a besoin et ouais, c'est notre famille, on est quatre et je pense tous les deux qu'on en a vraiment besoin en fait.
Quand on est en plein deuil, que la souffrance prend le pas sur tout le reste, il est difficile de faire un pas de côté pour analyser la situation dans laquelle est son couple. Souvent, le premier réflexe, c'est de voir chez l'autre ce qui ne colle pas avec notre propre expérience du deuil. Alors là, les remarques et les reproches peuvent pleuvoir.
Faut avancer.
En fait,
faut avancer.
Tu ne souffres pas. En fait, mais arrête d'en parler tout le temps.
Arrête d'en parler tout le temps.
Tu pleures trop.
Et toi ?
Toi, tu ne pleures jamais.
Et toi ? Toi,
tu te complais dans le pathos.
J'en peux plus. Tu pleures tout le temps.
Tu es déjà passé à autre chose.
Tu te complais dans le pathos.
Arrête.
J'en peux plus.
Tu pleures tout le temps.
Arrête de faire la victime.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
Tu pleures tout le temps.
Tu pleures tout le temps.
Comme le dit Capucine, c'est une personne extérieure, une psychologue, qui lui a permis de prendre un peu de hauteur et qui a mis le doigt sur un mécanisme qui était observable en partie dans son couple, comme dans beaucoup d'autres. Alors qu'elle avait l'impression qu'Alban avançait à 1000 à l'heure, si plutôt que son époux, comme de nombreux hommes dans une telle épreuve, vivait son deuil selon un rôle auquel il s'identifiait, sans doute en partie, du fait de son caractère, du fait de son éducation, en tant qu'homme, justement. On avait parlé de tout ça avec Yannick, mon invité de l'épisode 7, intitulé « Le genre et le deuil périnatal ». Pour résumer, le rôle dans lequel les hommes se confortent bien souvent, le rôle auquel ils s'identifient le plus, c'est celui du guerrier, c'est d'ailleurs ce mot qui est employé par la psychologue de Capucine. Le guerrier, le chevalier qui doit rester fort pour soutenir coûte que coûte son épouse et qui se reconstruit en étant bien plus dans l'action que dans l'introspection. Ce stéréotype, très souvent associé au masculin, on le retrouve dans plein d'aspects des relations entre femmes et hommes, et le deuil périnatal n'en fait pas l'économie. Pour schématiser, on pourrait dire « les femmes pleurent, les hommes les consolent, et pleurent parfois en secret ». Bien sûr, chaque individu est bien plus complexe que cela, mais c'est pour bien montrer que, une fois qu'on a pris conscience de ce mécanisme, on comprend mieux l'autre. Et c'est bien ça l'enjeu, que la compréhension prenne le pas sur l'incompréhension. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque membre du couple va donc vivre les choses à sa manière, et c'est ça qui est parfois dur à accepter et qui peut rendre impossible la communication. D'ailleurs, il arrive même que les rôles s'inversent et que les larmes surgissent à un moment où on ne s'y attendait pas forcément.
C'était une amie à moi, on était à peu près au même terme. Quand elle m'a annoncé qu'elle avait accouché, j'étais réellement heureuse pour elle. Et en fait, quand elle m'avait annoncé par message, après je l'ai rappelée et c'est un jour où j'étais en télétravail et j'ai mis le haut-parleur et il y avait Alban à côté. Et voilà, elle m'annonce la naissance, je lui pose plein de questions, j'étais super heureuse, etc. Et quand je raccroche, en fait, Alban était qui était là, avait écouté et était en larmes. Et ça a été super difficile pour lui ce moment-là. Bon, c'était la première naissance depuis dans notre entourage depuis que Marceau était parti.
Annonce de naissance, haut-parleur, et même terme que pour Marceau. Donc ça m'a fait revivre. J'étais en plein dans un mail et ça m'a fait revivre tout ce qui s'était passé. Quelques mois auparavant, en me disant qu'au final, il aurait dû être là aussi et que je comprenais pas. J'ai eu une réaction un peu de rejet. Quand je voyais Capucine qui était foncièrement bienveillante, heureuse pour son amie, je me disais, mais comment elle fait pour être si heureuse? C'est génial, mais je me dis, mais comment elle fait pour trouver cette force que là, à ce moment-là, moi, j'avais pas en fait. Je m'en voulais parce que je voulais être heureux pour j'étais bien sûr heureux pour elle, mais j'arrivais pas à être foncièrement à lâcher prise, à ne pas penser à que en final Marceau aurait dû être là même un petit peu avant. Donc ça m'a fait revivre tous ces événements passés, et ça m'a fait une douleur vraiment réelle, et donc du coup j'étais en pleurs, disant que je comprenais pas comment Capucine pouvait réagir comme ça, et que je l'admirais en même temps.
Je pense que ça dépend de qui est la personne pour nous. Et je sais pas, en fait, je pouvais pas être autre que heureuse pour elle. Elle avait eu son petit bébé, c'était juste magique. Après, je pense que tout dépend aussi du comportement que les gens ont eu. Enfin, moi, cette amie-là avait été présente et on avait aussi vécu notre grossesse ensemble et j'étais vraiment contente pour elle, alors que après j'ai appris certaines grossesses ou naissances et qui en fait je m'en doutais un petit peu, et sur le coup j'avais du mal à faire face à des nouvelles annonces, par exemple de grossesse. Alors que comme mon amie elle avait été enceinte, j'avais suivi un peu comme moi, bon, c'est peut-être pour ça que je l'ai bien vécu. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Alors que quand on apprend des nouvelles grossesses, là je sais pas. C'est encore un petit peu difficile. Ça va de mieux en mieux, mais c'est encore un peu difficile sur le coup.
Capucine et Alban forment donc un couple qui a été confronté au deuil périnatal. mais ils forment aussi une famille avec deux garçons. Un petit Marceau parti trop tôt, mais aussi un petit Martin. Martin, le frère aîné qui avait 1 an et demi au moment du drame. Capucine et Alban, ils ont dû se reconstruire ensemble, mais ils ont aussi dû accompagner du mieux possible leur enfant qui, quoique très jeune, a été le témoin de la peine de sa maman et de son papa.
De toute façon, il s'en est rendu compte et on lui a tout de suite dit. Après, on voulait pas non plus ne parler que de ça, mais parfois, il avait des petites réflexions en regardant le ciel, en disant « bébé ». Et au départ, on savait pas effectivement trop comment lui dire, en lui disant « le bébé, Marceau, il est parti, il est dans le ciel ». Et Clémence, donc de l'association Spama, donc qui avait vécu la même chose, et nous disait qu'en fait, il fallait vraiment employer le mot « mort » avec les bébés, les enfants, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas cette connotation négative que nous, on a à la mort. Et il vaut mieux le dire, Marceau est mort plutôt qu'il est, il est parti parce que ses parents peuvent partir alors que Marceau ne reviendra pas, alors que nous, oui, quand on dit qu'on part, dans le ciel, oui, mais quand il va prendre l'avion, et ça peut causer des peurs. Donc voilà, il faut employer les justes mots. Et elle nous disait aussi de lui dire que ce n'est pas sa faute. Et un jour, donc Alban lui a dit, moi je savais pas trop comment aborder la chose, et toi tu lui as dit.
Ouais, je lui ai dit, c'était un matin quand je l'amenais à la crèche, je crois, parce qu'on sentait quand même que Martin, il avait, on sentait qu'il ressentait quelque chose. Il commençait un peu à taper, il faisait des petites crises. Bon, c'est peut-être aussi lié à son âge, mais néanmoins, je voulais quand même lui faire passer le message que c'était pas sa faute. Donc c'était dans la voiture, comme on discute tous les matins pour aller à la crèche, au lieu de regarder les tracteurs, cette fois je lui ai souligné que c'était absolument pas de sa faute, que c'était pas de la faute de Marceau, que c'était pas de la faute de ses parents, qu'on allait vivre comme ça, qu'on allait être tous les quatre, que Marceau il était très bien maintenant là où il était, et que maintenant tout allait bien, mais que c'était surtout pas de sa faute.
On lui en parle souvent et il comprend. On lui a dit plusieurs fois ton petit frère. Et souvent, voilà, on lui dit, écoute, on va faire une petite prière pour Marceau. Et puis l'autre fois, il arrivait et puis il disait Marceau. Enfin, c'était lui qui était tout gai en disant son nom. J'ai l'impression qu'il a compris, qu'il comprend. Après, il est quand même petit. Voilà, on n'en fait pas non plus. On lui rabâche pas tous les jours. On n'a pas envie que ça soit obsessionnel. Mais je pense qu'il a compris et on lui expliquera en détail plus ou moins plus tard, voilà, parce qu'il est encore petit, mais on lui en parle pour qu'il comprenne qu'il fait partie de la famille et puis que ce soit présent pour lui au quotidien, enfin pas au quotidien, mais régulièrement en fait. J'ai l'impression qu'il y a un amour qui est fou entre tous les quatre et que ça nous a encore plus soudés, plus que changés. Après, changés plutôt peut-être dans le sens où on est peut-être plus léger sur certaines choses. On apprend certainement à plus profiter des choses simples de la vie, à s'émerveiller de quelque chose. Quand il y a un rayon de soleil, je me dis bah, c'est Marceau qui est là avec nous. C'est plus de ce point de vue-là, je dirais.
De mon côté, je dirais que on a perdu, pour ma part, peut-être mon innocence. Pas dans la manière négative de la chose, mais quand même. Ça fait grandir, ça rend, c'est vrai, plus fort. Ça fait apprécier plus le quotidien, ça fait respirer vraiment chaque seconde de sa vie, ça fait apprécier le fait que Martin soit en bonne santé, qu'on soit en bonne santé, d'apprécier vraiment les choses du quotidien de manière plus forte, de plus intense encore.
Cet épisode s'achève et je tiens à remercier Capucine et Alban de m'avoir et de vous avoir confié leur histoire de deuil périnatal. Merci à eux d'avoir partagé avec nous leur parcours en tant que couple. Un couple parmi tant d'autres, un couple qui est resté soudé dans les premiers temps de la tourmente et qui a connu des crises, qui a douté, qui s'est questionné, un couple qui est finalement parvenu à se hisser au sommet de son Everest. Peut-être que vous, qui écoutez cet épisode, eh bien votre couple bat de l'aile. Peut-être qu'il est sur le point d'exploser ou qu'il n'a pas réussi à gravir cette montagne. Ça arrive et vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez en discuter et partager cette expérience qui est la vôtre et qui est aussi une des facettes du deuil périnatal, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante sophie.aurevoirpodcast@gmail.com. Si comme Capucine et Alban, vous avez un ou plusieurs enfants qui ont été les témoins d'un deuil périnatal dans leur fratrie, vous pouvez écouter les entretiens 6 et 7 que j'ai réalisés avec la psychologue et docteur en psychologie Solène Équizian à propos de cette thématique. Je vous mets les références dans la description de cet épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode inédit. On parlera cette fois-ci d'une histoire de tatouage. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.